Dans ce livre aussi, vous parlez de la récolte du fruit de votre travail d'engagement depuis 40 ans avec Arnaud Desjardins et sur un plan plus personnel depuis une vingtaine d'années. Sur la voie donc, depuis le virage de la cinquantaine, où s'éclaircit, dites-vous, dans votre livre, votre conscience et où s'ouvre un peu plus votre cœur. Vous en parliez tout à l'heure. Vous dites que vous semblez moins asservi par votre souffrance égotique, à la différence d'être au service de la souffrance alentour, ce qui est en soi, et vous venez d'en parler aussi avec notamment Gurdjieff, une charge, une responsabilité d'homme et un sens à la vie, mais avec paradoxalement une joie intérieure pérenne.
Oui, Arnaud Desjardins disait, enfin une parole que je l'ai entendu dire et qui m'avait beaucoup fait réfléchir, plus vous vous libérez de votre souffrance personnelle, égocentrique, plus vous héritez de la souffrance du monde entier. Bon, ce qui est une sacrée parole, on n'a pas forcément envie d'hériter de la souffrance du monde entier, a priori. Mais en fait, peu à peu, il me semble que voilà, je commence, comme je vous disais, je commence à comprendre certaines choses. J'ai l'impression de commencer à entrevoir un possible sens à cette parole. En fait, plus nous nous dégageons effectivement de crispation égotique, psychologique, etc., plus nous sommes... Moi, j'aime bien employer le terme content. Vous voyez, un contentement. Plus nous sommes en paix, plus nous sommes disponibles. C'est très compréhensible. Prenez quelqu'un qui souffre physiquement, qui est dans la douleur, elle ne va pas être disponible ou très difficilement à son entourage. Si par des médicaments ou voilà, vous apaisez sa douleur, ne serait-ce qu'un gros mal de tête, la personne qui n'a plus mal à la tête ou beaucoup moins va être beaucoup plus disponible aux personnes qui sont autour d'elle. Enfin, c'est le bon sens. Et intérieurement, c'est la même chose. Et donc, si nous nous unifions peu à peu, que nous sommes davantage en paix, moins divisés, puisque finalement la division c'est le conflit, à ce moment-là nous nous ouvrons et paradoxalement nous sentons de plus en plus la souffrance qui est partout en fait, hein, qui règne sur le monde. Alors il y a les deux, il y a la souffrance et il y a la merveille. C'est complètement paradoxal et ça existe en même temps. C'est-à-dire que plus vous êtes disponible, plus vous êtes ouvert à ce que Swami Prajnapad appelait le festival de la nouveauté. Donc c'est merveilleux de vivre, c'est merveilleux d'être vivant, tout change tout le temps, c'est un cadeau, chaque instant est un cadeau, je l'écris dans le livre. Donc il y a la merveille de la vie, de la manifestation, des rencontres. Toute la vie, en fait, hein, vous voyez, être ici, là où nous parlons, dans un bar, où il y a un beau décor, avec voilà, une certaine ambiance, c'est extraordinaire, c'est magnifique, c'est incroyable. Hein, voilà. Et puis, en même temps, il y a la souffrance, c'est-à-dire qu'en fait, probablement, vous voyez que dans cet endroit même où nous sommes, il y a des gens autour de nous... même si ça ne se voit pas, qui doivent beaucoup souffrir parce qu'ils sont malheureux en couple, ils ont l'impression qu'ils n'ont pas fait ce qu'ils avaient à faire, que leur vie n'est pas réussie, que... sans parler de la souffrance, bien sûr, qu'on entend toute la journée dès qu'on allume la radio, la télé, tout ce qui se passe, qui en fait, bon voilà, il y a ce qui se passe à l'heure actuelle où nous parlons, mais il y a ce qui se passe de toute éternité, depuis l'aube des temps. Donc, il y a toute cette souffrance... terrible, qui règne sur le monde, qui imprègne tout, et les grandes souffrances, les petites souffrances, les souffrances individuelles, les souffrances collectives, à bien des égards, c'est la tragédie, hein. C'est la merveille et c'est la tragédie. Et donc, quand vous vous ouvrez, vous devenez beaucoup plus réceptif à cette présence du tragique partout, vous le ressentez en l'acceptant. Si vous l'acceptez, ça ne vous vole pas la paix, ça ne vous vole pas le contentement. Si vous acceptez votre impuissance par rapport à beaucoup de choses, mais par contre, ça vous met dans un état de vulnérabilité, de disponibilité, et avec une très forte impulsion, si on peut dire, non personnelle, d'une certaine manière neutre, à participer plutôt à la guérison autant que possible qu'à la maladie, à soulager, même si c'est insignifiant, hein, sans se prendre pour un sauveur, et juste une personne, puis une autre, soi-même, hein, la relation à soi-même déjà, la bienveillance vis-à-vis de soi-même, voilà, c'est de ça dont il est question.
Alors, Donc dans votre livre, donc je rappelle le titre, La réalité est un concept à géométrie variable. Vous scrutez un peu l'époque, vous scrutez un peu vos frères d'âge également, vous nous parlez un peu de vos connaissances. Vos choix de vie et votre discernement ne vous ont pas mené à des chimères de conspirationnisme, puisque non. Vous en parlez, ou de suffisance. Vous ne vous estimez pas mal loti et surtout heureux, conscient et vivant. Une réussite personnelle ou une grâce providentielle ?
Une réussite personnelle, je ne crois pas, parce que c'est difficile de s'attribuer quoi que ce soit, difficile et dangereux. Une grâce providentielle, certainement, je serais tout à fait d'accord avec ce terme. Après, bien sûr, dans cette grâce providentielle, il ne faut pas que je sois non plus injuste envers l'être humain que je suis. Bien sûr, j'ai, entre guillemets, fait ma part, j'ai pu, par moments, faire preuve d'un certain courage, d'une certaine persévérance, d'une certaine honnêteté, savoir m'en mettre en cause, faire certains efforts. Bien sûr, en même temps, comme on le disait tout à l'heure, j'ai sans doute pas pu faire autrement. Pourquoi est-ce que finalement je l'ai fait ? Bah, parce que je ne pouvais pas faire autrement. Pourquoi est-ce que je ne pouvais pas faire autrement ? Finalement, on revient à la grâce. Donc oui, je m'estime au final béni, privilégié. Effectivement, je n'en reviens pas de ce qui m'a été donné, de là où j'en suis aujourd'hui, même si, voilà, ça peut paraître à la fois très prétentieux, je n'en reviens pas de là où j'en suis aujourd'hui, mais je n'en suis pas quelque chose d'extraordinaire. Simplement, je n'en reviens pas d'être, si vous voulez, tout simplement, à mon âge et dans la situation où je suis, de sentir quelque chose de l'ordre d'un début ou d'une forme d'accomplissement, de contentement. J'étais un adolescent très torturé, très perturbé, même à certains égards. Il y a une époque où c'était pas dans la culture de ma famille de m'emmener chez le psychiatre ou même le thérapeute, mais si j'y avais été, le diagnostic n'aurait sans doute pas été très, très brillant. C'était dans les années 70, donc quand j'avais 16 ans, 17 ans, j'ai vraiment des souvenirs très précis d'avoir été très perturbé, même voilà, au-delà de la crise d'adolescence, d'avoir eu pendant un certain temps un rapport un peu perturbé, pathologique, je pense, à la réalité, voilà, d'avoir été un peu limite, borderline sur certains points, et d'avoir été en tout cas très déchiré par beaucoup de choses, même si par ailleurs j'étais plutôt dans un contexte privilégié et positif. Mais voilà, je mesure aujourd'hui cette chance, cette grâce, comme vous l'avez dit, ce privilège, et surtout j'en reviens pas d'avoir attiré finalement les rencontres que j'ai attirées, sur plein de plans d'ailleurs, bien sûr spirituels, mais aussi d'avoir pu rencontrer des artistes, des écrivains, des danseurs, des poètes, des musiciens que j'admirais et que j'admire toujours et qui m'ont beaucoup apporté. Et voilà, de pouvoir aujourd'hui faire ce que je fais, accompagner la maturation de personnes, d'une forme de communauté, faire de la musique, écrire. C'est une si grande chance. Vivre dans un environnement plutôt paisible et porteur, c'est un tel privilège. Donc oui, c'est sûr qu'il y a certainement une grâce providentielle, mais qui donne du coup une responsabilité. Quand on estime avoir reçu, la moindre des choses, c'est d'essayer de donner, de contribuer.